Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. Nous prenons tout de suite la direction de l'Arménie, où le pouvoir dénonce une tentative de coup d'État de la part des militaires. L'état-major a en effet demandé ce matin la démission du Premier ministre Nikol Pachinian, qui est ensuite descendu dans la rue avec ses militants, marche du pouvoir contre marche de l'armée. Ce soir, la situation est toujours tendue en Arménie, notamment à Erevan, la capitale, où nous retrouvons notre correspondante Asmi Karakelian.
La situation reste chaude en Arménie. Après l'exigence de la démission du premier ministre arménien par l'état-major général des forces armées arméniennes, 30 généraux et lieutenants-généraux de la police d'Arménie ont rejoint à cette demande. Après-midi, il y a eu deux manifestations à la fois. Sur la place de la République, le premier ministre s'est exprimé devant ses partisans qu'il a l'intention d'organiser des élections anticipées et ainsi continuer à établir l'état de peuple. Les supporters de l'armée s'étaient rassemblés sur la place de la Liberté. La manifestation était dirigée par les 17 partis d'opposition qui se sont unis leurs forces pour exiger Nikol Pachinian de quitter son poste. D'après eux, c'est le premier ministre qui est coupable de la défaite de la guerre dans le Karabakh. Les manifestants appellent à Nikol Pachinian à ne pas mener le pays vers la guerre civile et une effusion de sang. D'après eux, Pachinian a une dernière chance de partir sans qu'il n'y ait de troubles. Le lieu de la manifestation est déplacé devant l'Assemblée nationale. En ce moment-là, l'avenue Bahramian est bloquée par des milliers de manifestants. L'opposition a promis d'y passer des nuits jusqu'à Nikol Pachinian démissionne. À Yerevan, Hasmi Karakelian pour Radio Vatican.
Et la Russie s'est dite préoccupée par la situation politique en Arménie. Elle a appelé au calme. La Turquie, de son côté, dénonce une tentative de putsch dans le pays. Les Nations Unies font part de leurs inquiétudes quant à la situation au Bélarus. La répression systématique se poursuit selon Michelle Bachelet, la commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Près de 250 personnes ont été condamnées pour des motifs politiques selon les Nations Unies. Et cela depuis la contestation lancée en août dernier contre le dirigeant bélarusse aux commandes du pays depuis 1994. Les relations entre Moscou et l'Allemagne ne risquent pas de se réchauffer de sitôt après ces accusations selon lesquelles un ressortissant allemand aurait transmis des données sur le Bundestag à la Russie. Selon le parquet fédéral, l'homme travaillait pour une entreprise mandatée à plusieurs reprises par le Bundestag allemand pour y effectuer des contrôles de ses ordinateurs portables. Il avait à ce titre accès à des fichiers PDF contenant des plans de propriété de la chambre basse du Parlement allemand. Des informations transmises à l'État russe. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent, comme c'est désormais leur habitude tous les mois, depuis 15 heures pour un sommet en visioconférence, avec au menu la stratégie commune à adopter pour lutter contre le coronavirus. La préoccupation principale de ce jeudi est donc d'adopter une position à 27 sur les fermetures de frontières et les restrictions de voyage, des restrictions imposées par plus d'un tiers des pays de l'UE, au moment où d'autres, ainsi que la Commission, plaide pour un assouplissement de ces restrictions sur fond de campagne de vaccination qui ont du mal à accélérer face aussi au développement des contaminations par les nouveaux variants du virus. À Bruxelles, les détails de Pierre Benazet.
Des mesures restrictives pour les déplacements non essentiels pourraient encore être nécessaires pour contenir la propagation du virus, estime le président du Conseil européen dans sa lettre de convocation pour ce sommet virtuel. Charles Michel apporte ainsi de l'eau au moulin des 10 pays qui ont imposé en Europe à des degrés divers des contrôles frontaliers, voire des fermetures partielles. La Commission européenne a pourtant envoyé lundi un courrier à 6 de ces pays pour leur demander des explications rapides sur les mesures imposées. Parmi eux figure la Hongrie, qui a probablement le régime le plus strict avec la Belgique, ou encore l'Allemagne, qui impose des contrôles aux frontières extérieures de la Bavière. Pour la Commission, ces restrictions pourraient être qualifiées de discriminatoires et non proportionnées, mais son discours sur les frontières qui n'arrêtent pas le virus a peu de chances de faire florès lors de ce sommet. La Belgique a par exemple exclu tout assouplissement d'ici fin mars. Les espoirs des pays qui souhaitent une reprise de la libre circulation ont donc de fortes chances d'être réduits à néant ce jeudi. C'est en particulier le cas de Chypre et de la Grèce, qui ont déjà négocié avec Israël un passeport vert pour la venue des touristes vaccinés. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Hommage national ce matin en Italie pour l'ancien ambassadeur en RDC, Luca Attanasio, et son garde du corps, tués lundi dernier en compagnie de leur chauffeur dans une embuscade près de Goma, au nord Kivu. Les deux cercueils ont été portés par des carabiniers en l'église Sainte-Marie des Anges à Rome pour des funérailles d'État. Une cérémonie en présence du président, du conseil italien, Mario Draghi et de plusieurs ministres. La messe d'obsèques était célébrée dans la basilique Sainte-Marie des Anges par le cardinal Angelo de Donatis, le vicaire de Rome. Trouble au Niger depuis l'annonce des résultats de la présidentielle mardi dernier, consacrant le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum. Deux personnes sont mortes en marge des manifestations, plus de 500 ont été arrêtées. Et à noter qu'aujourd'hui, la maison du journaliste de la radio RFI a été vandalisée et en partie incendiée par des inconnus. Dans notre dossier ce soir, intéressons-nous de plus près à la Somalie. Depuis le 8 février, l'opposition ne reconnaît plus la légitimité du président sortant, Farmajo. Son mandat officiel a en effet expiré après le report de l'élection présidentielle au début du mois. Depuis, des incidents armés ont eu lieu à Mogadiscio, la capitale. Les tentatives de pourparlers ont échoué. La communauté internationale s'inquiète. Alors que les islamistes Chebab tiennent toujours une bonne partie du pays, jouant sur des fracturations claniques, Marc Fontrier est chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique, en particulier de la Somalie. Entre pouvoir central et puissance régionale, il nous éclaire sur les divisions profondes et historiques de ce pays, sur lequel il est difficile de plaquer des modèles occidentaux.
C'est un échec selon nos normes à nous, selon des normes somalies, je dis bien somalie, pas somalienne, ça n'a rien d'extravagant. Il est évident que la politique de Farmajo, qui est ce que j'appelle moi un Somalie offshore, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, qui a étudié aux États-Unis et qui revient dans un pays dont les normes fondamentales, les normes traditionnelles lui échappent. Alors quand Farmajo essaye de reproduire une sorte de centralisme d'État, politique donc, inéluctablement il va se heurter à tout ce qui est le cercle extérieur de la société somalie, Somaliland, Puntland, Jumaland, et puis après peu à peu il va se heurter à d'autres cercles d'opposition. Alors bien sûr il y aura les Chebab, mais il se heurtera également à du fractionnement clanique. Il ne peut pas s'inscrire dans cette logique-là. Et en plus de ça, il souffre d'un handicap lourd, c'est qu'il est l'Américain du coin. C'est fondamentalement insupportable pour un Somali. Toute cette somme d'erreurs convergentes font qu'il n'y a pas de raison particulière pour que quelque chose réussisse. Alors on va leur parler de démocratie, d'état de droit, d'état-nation, de Covid-19, enfin tout ce que vous voudrez. Mais tout ça, ce sont des éléments de langage qui ne s'adressent absolument qu'à la communauté internationale.
Quelles peuvent être les conséquences sécuritaires tout de même à cette déstabilisation du pouvoir encore plus patente depuis le début du mois ?
On roule vers une refracturation de l'espace Somali. Est-ce que c'est une refracturation ? Est-ce que ce n'est pas simplement le fait qu'on risque de voir émerger quelque chose qui est tout à fait présent, mais simplement qui a été contenu en quelque sorte par l'intérêt d'avoir un soutien financier et pécuniaire de l'Occident, des Nations Unies ? Pour le reste, oui, bien sûr, à partir du moment où les Américains vont partir, où l'AMISOM va partir, ce qui se maintiendra, ce sont les entités politiques comme le Puntland, le Somaliland, qui seront construites autour d'une assise clanique lignagère, et ça ne peut pas rentrer dans le schéma que l'on voudrait voir se dérouler. Ce sera pas pire que maintenant, ce sera l'état normal de la société somalie. C'était le statu quo ante la colonisation. Alors là où ça pose problème, c'est la quadrature du cercle, c'est à Mogadiscio, où maintenant on peut s'attendre à des difficultés, pour employer un mot très pudique. Les présences occidentales étrangères n'amèneront pas la paix, elles n'amènent jamais la paix, elles suspendent la guerre, mais nous sommes dans des espaces où il faut un vainqueur et un vaincu. Le problème qui va se passer entre les Somalis, ça va être la façon dont ils vont gérer l'espace des islamistes, des Chebab. Pour eux, c'est tout bonheur. Le fait qu'il y ait des clivages qui apparaissent, qu'est-ce qui va se passer inéluctablement ? Les misérables forces de coercition de l'État somalien vont se déliter, et eux qui sont l'entité cohérente, au moins sur le plan idéologique, ont toutes les chances de pouvoir en profiter. Quand même, la lutte contre l'islamisme est une affaire importante, mais on s'y prend extrêmement mal. C'est pas en leur balançant des bombes sur le nez. Ce qui serait beaucoup plus malin, par exemple, ce serait de faire en sorte que les chefs islamistes qui ne sont pas somalis, parce qu'il y en a pas mal, soient discrédités par les somalis. Parce que ça permettrait après aux autorités traditionnelles de négocier. Mais on les a quasiment laissés tomber.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, Marc Fontrier était ce soir notre invité. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin. Je vous souhaite une très belle soirée.